Et pourtant, dans les tournants qui se profilent devant nous, il y a pas mal d'autres domaines où développer des synergies, penser et agir de manière transversale pourrait vraiment changer la donne, à commencer par notre assiette.
Bon, on sait bien qu'en fait, il y a un grand nombre de maladies qui sont liées en fait à l'alimentation et à la qualité de l'alimentation. Et on sait par ailleurs que la production de l'alimentation est à la fois très énergivore, a un impact assez important sur les écosystèmes. Et donc ici encore, si on arrive à concevoir une promotion d'une alimentation de qualité qui ne soit pas réservée à ceux qui ont le meilleur revenu, mais qui soit rendue accessible au plus grand nombre, on peut, avec une seule mesure, avoir énormément de bénéfices dans le domaine de la santé publique, dans le domaine environnemental, ou même dans le domaine d'une meilleure résistance de notre production agricole face aux fluctuations du marché, soit des matières premières, soit des fertilisants, soit de l'énergie, parce que les intrants pèsent lourd en fait dans la production alimentaire. Donc on peut comme ça rencontrer différents objectifs avec certaines mesures, et c'est là tout l'enjeu, c'est identifier les synergies là où elles se trouvent et en faire des priorités.
Bon, je note trois choses dans mon petit carnet du tournant. D'abord, qu'il est extrêmement difficile, et pas que pour les politiques, de lever le nez du guidon quand on est dans l'urgence d'une gestion de crise, et que notre tentation naturelle est d'essayer de revenir le plus vite possible à un état d'avant-crise, sans forcément dézoomer pour envisager des transformations plus globales indispensables si l'on ne veut pas juste se laisser balloter de crise en crise. Deuxièmement, que l'on a souvent tendance à réagir un peu chacun dans son coin, en fonction de ses priorités, mais sans toujours prendre en compte les synergies possibles avec d'autres secteurs, d'autres enjeux, pour trouver des solutions globales. Et enfin, troisièmement, que l'on oublie très vite, une fois la crise passée, les grandes réflexions que l'on s'est fait pendant, souvent déjà pris d'ailleurs dans le train de la crise suivante. Me reste une question. Est-ce que l'on n'en attend pas trop de l'exécutif, des gouvernements, qui sont sous pression de l'opinion, qui souvent veut des solutions simples et rapides ?
Oui, mais il y a des tas de forces vives dans un pays. Alors c'est vrai que dans l'urgence, elle repose sur l'exécutif, hein, sur les ministres qui ont à charge un certain nombre de compétences, et on voit aisément comment leur cabinet peut être complètement débordé. Mais il y a à la fois la société civile, il y a le Parlement, il y a le monde universitaire, il y a toute une série d'acteurs qui peuvent travailler en parallèle pour peu qu'on leur en donne une forme de mission ou qu'on leur en donne le mandat, à essayer de réfléchir à ces questions-là. Alors on l'a vu, hein, et même au niveau du Parlement, à certains moments, il y a eu des débats très intéressants, notamment sur l'obligation vaccinale, qui était un débat assez en profondeur et d'assez bonne qualité. Donc ce travail un peu plus qualitatif et de réflexion est possible, mais il faut lui donner suffisamment d'espace et surtout accepter que, après, une fois qu'on termine ce processus, que les recommandations puissent être suivies de mise en œuvre. Et là, on retourne à la responsabilité de l'exécutif.
Voilà pour les leçons de la crise Covid avec Marius Gilbert. Enfin, façon de parler, puisqu'il semble bien à l'entendre que l'on ne les ait pas vraiment tirées, les leçons de cette crise, aujourd'hui. Je profite de mon passage à l'ULB pour passer encore voir un autre chercheur, lui spécialisé justement dans les matières énergétiques.
J'ai envie de dire, ma spécialité, c'est l'énergie, et plus exactement la demande d'énergie, surtout des ménages. C'est vraiment ça que j'ai regardé depuis des années.
Il s'appelle Grégoire Wallenborn, philosophe et physicien de formation, et il travaille à l'IGEAT, l'Institut de gestion de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Et lui, quand je lui parle de crise, il estime que le choix même du terme n'est pas bon.
Je pense qu'il faut prendre conscience que ça n'est pas une crise, mais c'est une transformation de civilisation à laquelle on fait face, parce que cette crise est effectivement a des aspects conjoncturels. On a l'impression que c'est lié à la croissance post-confinement, à la guerre en Ukraine, mais tout ça était annoncé en fait depuis extrêmement longtemps. On sait bien que les combustibles fossiles vont arriver à une fin, et même s'il y en a encore et que ça peut croître, le fait qu'on continue à consommer plus chaque année des combustibles fossiles est juste intenable pour les questions de ressources et évidemment aussi pour des questions climatiques. Donc cette crise, on pourrait dire, ben voilà, c'est une opportunité pour commencer à transformer mais radicalement la société, parce que je pense qu'on n'a pas le choix, que ça va nous arriver et qu'il vaut mieux l'anticiper plutôt que de le subir. Et là, malheureusement, on le subit, ça fait juste 30 ou 40 ans qu'on sait que ça va arriver. Hein, enfin, on peut revenir même au rapport Meadows, hein, il y a 50 ans. Donc, voilà, ça nous tombe dessus, et on savait aussi que ça allait être par à coup. En fait, si vous regardez la crise de 2008, elle est précédée aussi d'une montée assez spectaculaire des prix de l'énergie. Et donc, il y a des corrélations. Donc, on va hoqueter de plus en plus. Ceci dit, mettre ce qui nous arrive sous le sceau de la crise permet effectivement de concevoir qu'il y a urgence, et il y a une urgence sociale évidemment, parce que les gens puissent payer l'énergie à un prix raisonnable pour tout ce qui est des besoins de base. En même temps, il y a une étude de l'OCDE qui vient d'être publiée et qui montre que les subsides aux énergies fossiles ont repris, elles ont doublé par rapport à l'année passée. Donc c'est clairement pas la solution, hein. Donc il faut savoir que quand on fait le tarif social et qu'il y a une bonne chose, c'est un subside aux énergies fossiles, évidemment. Donc comment est-ce qu'on peut à la fois faire des mesures d'urgence indispensables d'un point de vue social et les articuler à des mesures de long terme indispensables pour des raisons écologiques, environnementales, climatiques, tout ce que vous voulez.
Bon, ok. Ça justifierait d'autant mieux d'agir sur les fondamentaux. Penser cette transformation de la civilisation plutôt que de la subir par des crises successives. Mais Grégoire Wallenborn fait les mêmes constats que Marius Gilbert et Céline Nieuwenhuis sur l'extrême difficulté à amener ces débats-là sur la table des exécutifs aujourd'hui. Alors, faut-il conclure que les crises anesthésient, voire retardent obligatoirement l'émergence de nouvelles façons de penser le monde? Ou bien peuvent-elles jouer le rôle d'électrochoc qui finit par imposer aux décideurs des transformations fondamentales? Ainsi, la colère sociale, qui pourrait naître d'un hiver très difficile, avec une énergie impayable, ne va-t-elle pas chambouler la donne? J'ai posé aussi cette question à Grégoire Wallenborn.
Mon boulot de chercheur, c'est de faire exister des possibles, ne pas regarder juste le probable. Le probable, c'est que les choses aillent de mal en pis, qu'on ait des régimes politiques de plus en plus autoritaires et répressifs, parce que des révoltes de ci, de là vont émerger. Tout ça en utilisant de plus en plus les systèmes de contrôle digitaux. Ça, c'est un scénario qui est effectivement aujourd'hui de l'ordre du probable, mais c'est pas celui que je veux faire exister. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont parfois sous les radars, qui indique que peut-être que ça va être des années difficiles et pas 5-10 hivers difficiles, comme disait le Premier ministre, hein, en pensant essentiellement à l'économie et au ménage, que ça va être peut-être 10-20 années difficiles pour des tas de raisons, mais qu'une nouvelle génération est en train d'arriver, qu'elle veut autre chose, qu'elle est profondément éduquée à ces questions d'égalité, d'écologie, de racisme, de genre aujourd'hui aussi, qu'il y a quelque chose qui émerge. Je suis, moi, assez optimiste quand, paradoxalement, je vois des gens démissionner, quitter leur boulot, parce que leur boulot n'a plus de sens. On parle de grandes démissions aux États-Unis. Je vois en France les étudiants qui sortent des grandes écoles, et je trouve que c'est symptomatique pour un pays aussi élitiste ou élitaire que la France, que des étudiants qui sortent des hautes écoles disent non, nous on déserte, on bifurque, on veut pas plus de ce système. On va aller aider là où on a besoin de nous, on va faire des associations, il y a énormément de choses qui fourmillent dans tous les coins, dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises au travail, qui sont peut-être pas visibles, mais qui sont là en germe, et c'est ça qu'il faut aider à faire pousser.
Si je résume donc les avis croisés de mes trois premiers interlocuteurs et interlocutrices, ce n'est donc pas une crise passagère que nous affrontons, mais une transformation fondamentale qu'il nous appartient d'accompagner, de penser ou de subir. Mais nos modèles de fonctionnement, en particulier politiques, peine à décoller le nez des urgences pour penser le structurel de long terme. On serait donc en train de mettre juste des rustines, mais jusqu'à quand ? Avec une colère qui monte dans une partie de la population, une planète qui montre des signes de plus en plus clairs de dérèglement, qui ont tendance d'ailleurs à s'accélérer et à s'amplifier. Je me suis dit qu'il serait pas mal, du coup, de terminer ma quête de réponse par un détour chez un spécialiste en philosophie politique.
Voilà, je viens voir Philippe Valparaïs. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de couper un truc sur moi.
Philippe Valparaïs, sans doute l'un des philosophes belges les plus reconnus au-delà de nos frontières. Et je lui pose, à lui aussi, la même question qu'aux autres. Est-il possible, est-il faisable de penser les transformations que nous imposent les tournants qui se profilent, tout en gérant efficacement les urgences?
Ben, on le doit et donc on devra le pouvoir. Et donc je crois que c'est comme pour tous les changements, quoi. Pour parvenir à faire ce changement, on a besoin de différents éléments. On a besoin d'une pensée à suffisamment long terme, hein, une forme d'utopie bien pensée, pas seulement un rêve, d'une part. Et puis deuxièmement, on a besoin de l'énergie qui ne peut venir que de ce sentiment de crise, du fait que une partie de la population dit écoutez, ça, on ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument changer les choses. Donc on a besoin de cette énergie parce que sinon on reste dans le statu quo. Et alors pour parvenir à concilier ou à faire fonctionner ces deux éléments, il faut en plus des espèces de bricoleurs qui, au moment où il s'agit de prendre des mesures, mais parviennent à avoir, dans le cadre juridique, dans le cadre financier existant, ce qu'il y a moyen de faire pour essayer de se mouvoir dans la direction de cette utopie soutenable, en utilisant l'énergie qui vient de la protestation, de l'indignation, de la révolte parfois, qui est absolument nécessaire pour qu'on aille de l'avant.
Ceci dit, au fil de notre histoire, les moments de grandes transformations qui ont abouti à de grands progrès sociétaux ont parfois été précédés de moments extrêmement conflictuels, voire meurtriers. Pour Philippe Valparaïs, on ne peut pas exclure que les tensions soient telles qu'on en passe à une forme de régression vers la violence. Tout comme l'énergie de la colère et de la protestation pourrait aussi rendre possible la définition d'un nouvel équilibre. Et comme une sorte de boussole pour y voir clair dans les enjeux, Philippe Valparaïs me suggère ce qu'il appelle sa petite philosophie de l'histoire à l'échelle d'un confetti qui décrit l'évolution de nos sociétés au fil du temps au travers de trois stades.
Je trouve utile de réfléchir à ce qui est en train de se passer à l'aide d'une petite trilogie très simple, en se disant, bon, il y a un stade qui est souvent un stade de violence entre des sociétés, entre des tribus, parfois aussi entre des clans. Violence à tous les niveaux sont les passions qui gouvernent, c'est-à-dire on se fâche, on est un sang insulté, et donc il s'agit de se venger, etc. Bon, c'est un premier stade. Il y a un second stade qui est le stade de la négociation, qui est le stade des intérêts plutôt que des passions. On se dit, bon, c'est peut-être plus malin de négocier avec les autres, moi je proposerai de faire quelque chose en échange de quelque chose d'autre que l'autre fera pour moi. C'est au fond la logique du marché. Mais c'est aussi la logique de la négociation entre différents pays où on essaye de se mettre d'accord en faisant du donnant-donnant. Et puis il y a un troisième stade où alors la parole qui est notre attribut en tant qu'être humain, qui nous permet en partie d'exprimer nos passions, mais aussi de surmonter nos passions à travers la négociation. Mais enfin, ça nous permet aussi d'écouter les arguments des autres pour parvenir à trouver une solution qui puisse être perçue comme étant équitable par tout le monde. Et donc ce troisième stade, c'est en quelque sorte le stade où on passe de la négociation et de la rationalité instrumentale au stade du raisonnable et du sens de la justice.
Et où en est-on aujourd'hui alors dans ces trois stades, selon Philippe Valparaïs ?
Donc nous sommes aujourd'hui, un plus qu'on n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité, dans une société et dans une humanité qui est largement gérée par le marché. Le marché, c'est le règne des intérêts, hein, donc avec ce que ça peut avoir de pacificateur par rapport au régime des passions, mais aussi avec ce que ça peut avoir comme conséquence si ce marché n'est pas suffisamment bien contrôlé en termes de raréfaction insoutenable de certaines ressources, en termes d'inégalités absolument insupportable pour des parties importantes de la population, et en termes aussi de pollution et de perturbations climatiques qui sont absolument intenables. Et au moment où ces conséquences atteignent une acuité telle qu'il faut absolument faire quelque chose, il peut y avoir à ce moment-là une régression vers la violence, parce qu'on utilise alors le pouvoir de marché pour essayer d'écraser l'autre, soit parce que pour pouvoir survivre, il faudra transgresser les règles du marché pour envahir l'autre ou pour aller s'emparer de ses ressources. Donc il peut y avoir cette voie-là, mais il peut aussi y avoir l'autre voie-là où on parvient à dire, parlons, et essayons de trouver ensemble une solution qui soit à la fois efficace et équitable. Ce ne sera pas facile. Mais c'est la seule voie pour parvenir à survivre dans le monde dans lequel on est, dans le monde dans lequel le statu quo est impossible. Il faut absolument modifier notre manière de fonctionner.
Un statu quo donc impossible. Et à écouter Philippe Van Parijs, je nous vois de plus en plus à un carrefour plutôt qu'à un tournant. Sera-t-il possible au niveau belge, mais au niveau planétaire aussi, de trouver les espaces de dialogue, de délibération pour penser l'avenir ensemble, malgré la pression de l'urgence, des tensions qui risquent bien de se multiplier à mesure que les conséquences de la raréfaction des ressources, du dérèglement climatique, se feront de plus en plus fortes. Il y en a de la matière pour les prochains épisodes, vous ne trouvez pas ?